Bonjour et bienvenue sur le podcast BDSM de Larry. Je suis Larry, ceci est le 66e épisode. Cet épisode fait partie du thème argent et BDSM. J'essaye d'y répondre à la question, quand est-il préférable d'aller visiter un sex shop physique? Dans un contexte BDSM, bien entendu. Cet épisode est un petit épisode assez simple, sans prétention, mais j'ai pensé que cette question avait un certain intérêt, même si je l'ai déjà traité en fait dans des articles dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais comme toujours, dans mes articles, je parle de beaucoup de sujets en même temps, et parfois c'est intéressant d'extraire certaines portions pour les mettre un petit peu en exergue, et j'ai pensé que cette question-là, elle était assez intéressante. Surtout pour les personnes qui débutent, je vais expliquer tout à l'heure pourquoi. Une dernière précision avant d'entrer dans le vif du sujet. Cet épisode vise avant tout des personnes qui ne connaissent pas trop les sex shops, voire pas du tout. Si vous connaissez déjà, comme pour un certain nombre d'autres épisodes de podcast d'ailleurs, ce que je vais dire va probablement rien vous apporter. Hein. Par contre, si vous connaissez pas trop, je pense que ce que je vais dire pourra vraiment vous être utile. Et j'en profite d'ailleurs pour donner un certain nombre de suggestions, d'astuces et de remarques que je pense intéressantes si vous connaissez pas ces sujets. Première partie, présentation du sujet. Vous l'avez probablement remarqué, le sexe ça coûte cher, surtout quand on veut acheter des accessoires, et plus encore quand ces accessoires sont un peu sophistiqués, ou qu'ils sont un petit peu moins communs que les classiques préservatifs, godes et autres gadgets de base. Je le dis depuis des années, on peut très bien faire du BDSM sans accessoires. Il y a beaucoup de choses qui ne demandent rien ou presque rien. Et on peut aussi utiliser, au moins pour un certain nombre de pratiques, un certain nombre de choses qu'on trouve tout simplement chez soi. N'empêche que pour le sexe en général et pour le BDSM en particulier, c'est souvent quand même très sympa, parfois utile et dans certains cas indispensable de se procurer un minimum de matériel qu'on ne peut pas toujours aisément ou pas de façon satisfaisante remplacer par des solutions ad hoc qui ont été prises par exemple dans tel ou tel objet donc que vous avez chez vous. On peut pas toujours trouver des substituts vraiment satisfaisants. Bref, il est quand même très souvent intéressant voire nécessaire de pouvoir acheter un certain nombre de choses. Et dans certains cas, c'est vraiment, vraiment nécessaire, à part si vous avez un énorme matériel de bricolage par exemple, et des heures ou des jours à y consacrer. Acheter des accessoires, des matériels plus ou moins sophistiqués, c'est très bien, ça peut être vraiment super, mais souvent ça devient vite cher, voire très cher quand c'est pas carrément inabordable. Le problème de l'argent dans BDSM, c'est pas vraiment quelque chose de nouveau. Même si vous vous en êtes pas encore forcément vous-même aperçu, vous pouvez lire les réflexions et les plaintes de pas mal de personnes sur des forums, par exemple. Personnellement, j'ai reçu des plaintes à travers mon site, hein, par des messages qu'on m'avait envoyés. C'est un sujet récurrent, l'argent et les problèmes d'argent dans BDSM. Avec deux points majeurs, ce sont les tarifs très élevés des événements BDSM, mais je vais pas en parler dans cet épisode, c'est pas le thème. Et le deuxième grand point qui est abordé souvent, c'est que tous les gadgets, les accessoires et les matériels, c'est cher, et la qualité est souvent très chère. Si vous voulez un petit peu plus de précision, plus de détails sur ces sujets, vous pouvez aller écouter mon épisode numéro 5, l'argent dans le BDSM. Je conseille notamment d'écouter la troisième partie qui parle des accessoires BDSM et des problèmes donc d'argent pour se procurer du matériel. J'ai aussi écrit deux articles sur mon site univers-bdsm.info qui sont tous les deux consacrés au problème de l'argent dans un contexte BDSM. Vous pouvez trouver ces deux articles dans la partie zone BDSM en général. Dans la rubrique réflexions et commentaires, vous trouverez donc deux articles. Le premier s'appelle Argent et BDSM, un sérieux problème, dans lequel je présente tous les problèmes de l'argent, y compris le problème pour les accessoires. Le deuxième s'appelle Argent et BDSM, nos suggestions pour respecter votre budget. Là, c'est un article par contre qui est beaucoup plus orienté vers des solutions donc, et je vous explique par exemple comment moi je fais pour trouver soit des substituts, soit des tarifs raisonnables, et je mets aussi en garde d'ailleurs contre le risque de vouloir trouver à tout prix le moins cher, parce que ça pose plein de problèmes. Comme je disais dès le départ, donc, le sexe, ça coûte cher, aller dans des sex shops, ça a de quoi faire pâlir votre portefeuille, voire le faire s'évanouir. Maintenant, de nos jours, en plus des sex shops physiques, les vraies boutiques qu'on peut aller visiter, il y a bien sûr Internet, le web, qui est omniprésent, qui a beaucoup d'avantages, dont je vais parler tout à l'heure, et il y a notamment la tentation de les utiliser en exclusivité, parce que, en général, on a l'idée que les prix y seront plus bas, ce qui n'est pas forcément si simple. Et du coup, ça pose la question, est-ce que, de nos jours, ça vaut encore la peine d'aller dans des sex shops physiques, d'aller visiter une vraie boutique? Dans les parties suivantes, je vais donc essayer de vous présenter les points positifs et négatifs de chacune de ces solutions et vous expliquer pourquoi, selon moi, oui, ça vaut encore la peine de nos jours, mais évidemment, comme toujours, hein, ça va dépendre d'un certain nombre de facteurs, ça va dépendre de votre contexte. Je vais parler de tout ça dans les parties qui suivent. Deuxième partie, les points positifs et négatifs des sex shops par internet comparés aux sex shops physiques, les vraies boutiques. De nos jours, quand on parle de sex shop, la première chose qui vient quand même à l'esprit, c'est la boutique. C'est-à-dire, dans l'imaginaire de la personne moyenne, ça reste encore la boutique un petit peu tabou, où c'est un petit peu difficile d'aller, parce qu'on a un peu des hésitations, des peurs. On s'imagine un certain nombre de quartiers, genre les quartiers adultes, avec tout un tas d'imaginaires hein, hérités du passé, que ce sont des endroits peut-être pas forcément bien famés, qu'il y a des gens bizarres, que les vendeurs, parce qu'on s'imagine ce sont des vendeurs, mais vous allez voir, je vais en parler tout de suite, il y a aussi des vendeuses, que les vendeurs sont des gens plus que bizarres, bref, que tout ça c'est plutôt glauque, et du coup il y a dans l'idée, hérité du passé, à tort, que tout ça c'est un peu, bon, difficile d'aller vraiment physiquement visiter ce genre de choses, ce genre de boutique. Alors, de façon très brève, avant d'entrer dans les comparaisons positifs et négatifs, si vous aviez encore des idées comme ça, héritées du passé sur les sex shops, vous pouvez les balayer et les mettre à la poubelle, parce que croyez-moi, ça a bien changé. Les boutiques qui, quand moi j'étais jeune, je vous rappelle, je suis né en 1971, donc j'ai commencé à fréquenter les sex shops en 89-90, et à cette époque-là, c'était encore des boutiques très discrètes, il n'y avait pas de nom marqué dessus, sauf quand on allait voir dans les quartiers entre guillemets chauds, mais quand on allait visiter le sex shop un peu moyen au milieu d'une rue quelconque, il n'y avait rien d'indiqué, il y avait un gros rideau ou bien il n'y avait absolument rien dans la devanture. Bref, quand vous étiez devant la porte, vous aviez de quoi vous poser des vraies questions. Ça m'est même arrivé dans un cas de ne pas oser entrer parce que je m'étais dit c'est pas un sex shop, c'est pas une boutique, c'est une entrée d'immeuble. Et à ce jour, je sais toujours pas si c'était pas une entrée d'immeuble, mais franchement, on n'aurait pas cru que c'était une boutique. Pour les autres boutiques, j'ai pas eu de problème, mais pour celle-là, c'était vraiment très bizarre. Je pense qu'il y avait une erreur sur l'adresse dans la publicité. Mais même à l'époque, si je ne tiens pas compte du fait que les vitrines, quand on était comme ça dans des rues un peu anonymes, étaient totalement vides et que c'était un tout petit peu bizarre pour entrer, même à ces époques-là, franchement, ceux que j'ai pu visiter, c'était des trucs tout à fait raisonnables. Il y avait des gens dedans qui étaient parfaitement banals. Les clients et les clientes, pour l'anecdote, hein, la première fois que je suis entré dans un sex shop, qui était donc vraiment une petite boutique, on voyait pas du tout que c'était un sex shop, etc. Ce n'est qu'une fois entré qu'on se rendait compte qu'il y avait quelque chose dedans. La première personne que j'ai vue, c'était une femme de la trentaine qui était en train de choisir un fouet dans un des étalages. Alors pour quelqu'un comme moi, qui à l'époque déjà était pas mal orienté BDSM, même si j'étais pas encore totalement à fond dedans comme maintenant, c'était assez marrant quand même. Mais plaisanterie à part, même à cette époque-là, c'était pas tellement glauque. On pouvait y aller sans vraiment avoir de problème, de doute. Le seul souci, c'était d'arriver à entrer en se disant, est-ce que c'est vraiment là? Est-ce que c'est vraiment ça la boutique? Parce que quand vous avez vraiment une porte absolument anonyme, ça fait, croyez-moi, très bizarre. Mais tout ça, ça a beaucoup changé. Si on fait un saut dans le temps assez important, donc, pour passer des années 90 aux années 2020 et dans notre cas 2024, tout a changé. Maintenant, vous avez carrément des noms d'enseignes, vous avez des chaînes de magasins carrément. Quand vous arrivez devant, vous voyez direct dans la devanture plein de choses qui montrent bien que c'est un sex shop, hein, y a absolument aucun doute. Et ce, même quand vous n'êtes pas dans un quartier un peu chaud, entre guillemets. Quand on est à l'intérieur, c'est très clair, en général c'est bien éclairé, il y a des personnes qui s'en occupent, c'est pas du tout ce qu'on imaginait à l'époque et ce qu'on imagine encore à tort hein, de nos jours, quelqu'un d'un peu glauque entre guillemets, et ce sont pas toujours des hommes d'un certain âge. Vous avez généralement plutôt des personnes assez jeunes et il y a beaucoup de femmes, et donc beaucoup de jeunes femmes. Quant à la clientèle, vous avez remarqué que j'ai pas dit les clients, il y a aussi de tout, et si vous allez dans un sex shop en journée notamment, plus encore probablement les week-ends, vous avez de fortes chances de croiser non pas les petits vieux pervers qu'on s'imaginait à l'époque, à tort hein, bien sûr, même à l'époque c'était complètement absurde. Vous avez pas des gens qui ont des longs manteaux et qui se préparent à vous faire un petit coucou, regarde ce que j'ai sous le manteau. Non, tout ça c'est d'une autre époque et de toute façon ça a jamais vraiment existé. De nos jours, vous arriverez aisément à voir des jeunes, des couples, des femmes seules, de tout, hein, franchement de tout. Et en général, les vendeurs et vendeuses sont plutôt sympas. Bien sûr, ça dépend des gens, ça dépend des moments. Il y en a qui sont un peu moyens, mais ça, c'est comme partout. Ce que je voulais dire dans cette brève introduction, c'est que tous ces mythes sur les sex shops physiques, vous pouvez les oublier, hein. Franchement, j'en ai visité un bon nombre, même certains qui, de l'extérieur, étaient un peu glauques parce qu'on aurait juré qu'ils sortaient des années 50, mais même dans ceux-là, les gens étaient tout à fait corrects, voire très sympas et cordiaux, hein. Mon expérience la plus bizarre, pour vous donner une anecdote tant qu'on y est, c'est quand j'étais allé en Angleterre, parce que je vais assez souvent à Londres, j'avais été visiter un certain nombre de sex shops, et un des sex shops que j'avais visité dans le quartier soi-disant chaud de Londres, c'est très surfait, hein, la réputation est très surfaite, il y en a un qui m'avait frappé quand même, c'est que c'était un sex shop qui était tout minus, tout petit, franchement, la boutique, je pense pas qu'elle devait faire 20 mètres carrés, mais ce qui était frappant, c'était que sur les deux murs où il y avait vraiment des matériels, des accessoires, il y avait des petites étagères qui étaient peu remplies en fait. Au final, je pense pas exagérer en vous disant que j'ai chez moi plus de matériel qu'il y en avait dans ce sex shop là, du moins ce qui était sur les présentoirs. Et franchement, je pense pas exagérer. Mais le plus rigolo, et ça m'a marqué, ça m'a vraiment marqué, c'était la vendeuse. Alors c'était une femme d'un certain âge, elle devait avoir dépassé la cinquantaine, qui était là juste pour être là, parce que franchement elle s'occupait pas du tout du client, je crois même pas qu'elle m'ait dit bonjour, ou qu'elle ait plus que vaguement regardé dans ma direction. Et tout ce dont elle s'occupait, c'était de ses bâtons d'encens, et ça puait l'encens, c'était presque impossible de respirer dans la boutique, c'était absolument horrible. C'était une expérience, franchement, c'était vraiment la seule fois où il soit passé quelque chose qui m'a marqué vraiment, parce que c'était super bizarre. Je pense que c'était pas une vraie boutique, et je pense qu'il devait s'y passer des trafics, des choses comme ça, hein, parce que y a pas d'explication sur comment il pouvait se permettre de payer le loyer de la boutique, en ayant quasiment rien à vendre, en s'occupant pas des clients, et en n'ayant vraiment absolument rien à faire des clients. Elle ignorait totalement ce qui se passait dans la boutique. Jamais on me fera croire que c'était une boutique qui avait pas des trucs bizarres derrière. Mais peu importe, c'était juste pour une anecdote marrante. Sinon, tous les autres que j'ai pu visiter, il n'y a jamais eu vraiment de soucis, à part de trouver ce que je voulais trouver, ce qui n'était pas toujours évident, mais ça, je vais en reparler tout à l'heure. Donc maintenant que j'ai un tout petit peu déblayé ces idées reçues que beaucoup de gens encore de nos jours ont, hein, sur les sex shops réels, physiques, les boutiques, donc en conclusion, hein, je me répète, vous pouvez y aller l'esprit tranquille, peu importe votre âge, peu importe même si vous êtes une jeune femme seule, il n'y a pas de problème pour y aller, hein, vraiment, je vous rassure, il y a vraiment pas de problème. Toutes les idées reçues dessus ont des dizaines d'années de retard et ce sont déjà même pour l'époque des exagérations. Et donc, quand on parle de sex shop, ce qui vient à l'esprit en général, encore de nos jours, je pense, c'est quand même la boutique. Le sex shop physique, celui dans lequel on va avec un petit peu de crainte, donc, hein, comme je viens d'expliquer. Mais bien sûr, de nos jours, vous le savez, avec Internet, le web plus précisément, il y a eu un développement absolument fou de la vente en ligne et les sex shops ne se sont pas fait attendre, loin de là, et on peut en trouver beaucoup. Maintenant, je voudrais brièvement vous présenter les avantages et inconvénients, en tout cas pour moi, dans ma perception, de chacune de ces deux solutions. Je vais commencer par les sex shops physiques, les boutiques. Évidemment, le premier gros problème, et ça c'est un vrai gros problème, c'est que tout ce qui est boutique physique, il faut pouvoir se déplacer, il faut pouvoir en trouver une et en avoir une pas trop loin de chez soi. Si vous habitez par exemple à Paris ou au moins pas très loin de Paris, vous en trouvez aisément à l'intérieur de Paris. Pareil pour les grandes villes. Si vous habitez un peu loin d'une grande ville, ça risque d'être assez tendu pour trouver quelque chose. D'autant plus que avec la concurrence d'Internet, il y en a pas mal qui ont fermé en fait. Donc c'est devenu plus difficile parce qu'ils ont du mal à concurrencer notamment les prix qu'on peut trouver sur Internet. Bref, il n'y a pas beaucoup d'endroits où vous trouverez une rue où il y a plein de sex shops des deux côtés, comme par exemple le boulevard de Clichy à Paris. Si vous avez une curiosité sur ça d'ailleurs, je vous suggère d'aller voir mon tout petit article sur mon site univers-bdsm.info. Dans la rubrique référence, vous trouverez une sous-rubrique adresse. Il y a un article qui s'appelle Sex Shop sur Paris. Il vous présente très brièvement un certain nombre de sex shops que je connais, que je fréquente de temps en temps, et il y a des photos de leur vitrine, ce qui vous permettra de vous donner une bonne idée de comment ça se présente de nos jours si vous aviez encore des idées reçues du passé. Mais à part ce genre de rue qu'on peut trouver à Paris, à Londres, etc., c'est sûr que vous trouvez pas si aisément que ça des magasins comme ça, même si, par exemple, à Paris, je parle de Paris parce que j'habite juste à côté, évidemment, il y en a caché un peu à droite à gauche, il y en a caché aussi du côté du secteur des Halles, ce genre de choses, mais c'est pas partout qu'on en voit donc une bonne douzaine dans une rue qui semble être quasiment dédiée à ce sujet. C'est évidemment un gros problème, donc le problème de l'accès, c'est un très gros souci, pour moi c'est peut-être un des souci majeur. Le deuxième problème, qui est important, mais je l'ai déjà traité tout à l'heure, donc je vais abréger, c'est la peur d'y aller. Alors, je sais bien, je l'ai dit tout à l'heure, hein, j'en ai parlé assez longtemps exprès à cause de ça, je sais bien qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ont des peurs hein, à aller comme ça, entrer dans un magasin, y compris d'ailleurs la peur du regard des autres, parce que c'est un point majeur quand même. Mais comme je disais tout à l'heure, je vous rassure, de nos jours, franchement, les gens, ils y prêtent absolument plus attention, et si vous allez dans des quartiers où il y a des sex shops comme ça, franchement, les personnes qui passent devant voient tous les jours, à longueur de temps, des gens qui entrent et sortent de ces sex shops, donc personne n'y prête plus attention. Un troisième problème qui me paraît vraiment important, et là on entre plus dans les considérations pratiques, c'est que, par essence, une boutique, ça a une place limitée, et ils vont évidemment mettre en stock les choses qui se vendent le plus, du moins qu'ils espèrent vendre le plus. Le souci donc, c'est que quand vous allez dans un sex shop physique, le choix est forcément relativement restreint. Et là, il n'y a pas de comparaison avec les sex shops sur internet, évidemment. Enfin, un quatrième point négatif majeur, mais assez évident, c'est que dans cet épisode, évidemment, je parle d'un aspect BDSM. Mais la plupart des sex shops ne sont pas spécialisés BDSM. Donc ce qu'ils vendent, c'est à 95-99% des accessoires de sex shop, de sexe en général, parfois avec des choses un peu spécialisées, mais en général, c'est quand même avant tout le tout venant, les choses qui savent, qui se vendent beaucoup, que ce soit les préservatifs, les godes, les vibrateurs, ce genre de choses, qui sont des classiques, évidemment. Et en général, ils ont un rayon plus ou moins grand qui tend vers le BDSM, mais ce rayon, il est quand même, en général, relativement petit parce qu'ils sont pas spécialisés. Alors évidemment, il y a toujours le même problème, hein. Je me répète, mais le BDSM, c'est très répandu, donc on devrait avoir beaucoup plus de choix de choses de type BDSM. Mais comme dans l'esprit des gens, à donc, le BDSM est associé à une très faible minorité de personnes. De façon logique, dans les sex shops, il y a donc une petite partie qui est consacrée à ce sujet-là. Ça a augmenté hein, depuis ces dernières années avec l'explosion, le regain d'intérêt cyclique, bien sûr, pour le BDSM. On voit beaucoup plus de choses. Mais ça reste quand même, évidemment, beaucoup plus restreint que si vous allez dans un des très très rares sex shops spécialisés dans le BDSM. Quand je dis très rare, à vrai dire, je crois qu'il y en a que un ou deux en France qui soient vraiment dédiés à ça. Donc du point de vue BDSM, le choix, il va être tendu. Non seulement vous avez les limitations habituelles de la boutique qui peut pas tout stocker, mais en plus de ça, le BDSM est considéré, à tort, mais il est encore comme étant si mineur que les rayons restent relativement pauvres. Et en plus de ça, une conséquence à mon avis directe de ça, c'est qu'il propose avant tout quand même des choses qui sont très basiques. Ça va être de l'entrée de gamme, et ça va être surtout les accessoires qui sont jugés comme étant ceux que les gens vont le plus souvent vouloir acheter. Maintenant, je voudrais parler des points positifs, parce qu'il y en a évidemment. Un premier point positif, mais là j'émets des réserves, c'est le côté conseil, c'est-à-dire pouvoir parler avec un vendeur, une vendeuse. Alors j'émets quand même des réserves, parce que si on parlait pas de BDSM, je pense que c'est possible d'obtenir beaucoup d'informations de la part des personnes qui sont spécialisées dans ce genre de choses. Certaines personnes connaissent beaucoup mieux que d'autres, hein. Il y en a, ils sont un peu ignorants ou ignorantes, hein. Mais quand même, ils connaissent souvent pas mal de choses, ils connaissent leurs produits et ils peuvent vous suggérer des choses. Ils peuvent répondre à pas mal de questions. Le problème, c'est que le BDSM, c'est quand même minoritaire. La plupart des gens n'ont pas vraiment une bonne idée de ce que c'est vraiment. Et là, pour demander des choses dans un contexte BDSM, franchement, à part si vous allez dans une boutique spécialisée, comme la boutique Démonia à Paris, je crois qu'il faut prendre avec des pincettes ce qu'on pourra vous dire et ce qu'on pourra vous suggérer en matière de BDSM. Cela dit, ça peut quand même valoir la peine d'en parler, ne serait-ce que pour un petit peu démythifier un certain nombre de choses, surtout si vous y allez juste pour acheter un petit gadget relativement basique. Là, ils sauront probablement vous guider. Les autres avantages, et là, à mon avis, ce sont les avantages, c'est que vous avez les accessoires sous les yeux, vous pouvez les toucher, les manipuler. Pour un grand nombre d'entre eux, pas tous bien sûr, mais un grand nombre, vous pouvez même les essayer, et ça, ça se remplace pas. Tout ce qui est pouvoir toucher, pouvoir voir bien entendu, pouvoir sous-peser, parce qu'on ne se rend pas compte du poids sur une photo sur internet. Pour le cas des menottes par exemple, si vous en avez jamais testé, il n'y a rien de mieux que de faire un essai. Sinon, on ne se rend pas compte. Bien sûr, il y a des matériels, on ne peut pas les essayer, hein, pour des raisons un peu évidentes, mais si je prends l'exemple des menottes, c'est vraiment un bon exemple de choses où on ne se rend pas compte tant qu'on n'y a pas touché. Ça a l'air très bien quand on les voit fois, mais ensuite quand vous les prenez en main, quand par exemple vous essayez d'ouvrir la boucle de fermeture de la menotte, c'est là que vous vous apercevez pourquoi dans mes épisodes où je parle de ce genre de sujet, notamment mes épisodes sur le bondage, pourquoi j'insistais sur les problèmes avec les fermetures et pourquoi je recommandais du scratch. Parce que si vous en avez jamais eu en main et que vous prenez donc un gros modèle avec une grosse boucle, vous vous apercevrez très vite que c'est pas du tout facile à défaire la boucle pour ouvrir, que la menotte en général elle est un peu dure, elle est un petit peu rigide, plus que vous auriez imaginé probablement. Ensuite, pour la mettre, c'est pas si évident, surtout si vous essayez sur vous-même et non pas sur une tierce personne. Et là, vous vous apercevez que l'ouvrir et la fermer avec la grosse boucle, c'est beaucoup plus difficile que ça ne paraissait comme ça sans trop y réfléchir. Et ça, vraiment, c'est pas quelque chose dont on peut se rendre compte aisément. Si on regarde des photos, on se rend pas trop compte du problème. Quand on a la menotte, par exemple, dans la main, on se rend compte soudain qu'elle est plus grande que ce qu'on pensait, elle est plus rigide, le toucher est pas forcément agréable. Comme je viens d'expliquer, la boucle peut être carrément super dure à ouvrir et à fermer. Bref, on peut avoir beaucoup de surprises. Et c'est pour ça que, à mon avis, pour un bon nombre de matériel comme ça, c'est presque indispensable de pouvoir au moins un peu les toucher, éventuellement les soupeser, vérifier les couleurs, etc. Et dans le meilleur des cas, quand c'est possible, les essayer. Ce qui sera le cas par exemple des menottes, des vêtements, ce genre de choses. Pareil, si vous regardez quelque chose du genre un fouet, une cravache, ce genre de choses, les avoir en main, ça change tout. Franchement, ça fait une grosse différence. Enfin, il y a une dernière chose, mais alors là, vous la verrez pas dans beaucoup de sex shops, mais j'en ai déjà vu même dans des sex shops non spécialisés dans le BDSM. Ce sont tous les matériels un petit peu gros, comme par exemple des cages, des balançoires de suspension. Alors ça, c'est pas vraiment du BDSM, mais c'est très utile pour faire du BDSM. Ce genre de choses, si on les a pas vus aussi, c'est vraiment difficile, très difficile, hein, de se rendre compte de la taille réelle que ça a, de la place que ça occupe, et de la difficulté à les planquer ou à les ranger, ce genre de problème. Étant donné que ce sont des matériels en général assez coûteux, voire très coûteux, il y a vraiment intérêt à s'être un petit peu rendu compte comme ça, parce que quand on regarde sur internet uniquement, on se rend pas trop compte de ces problèmes-là. Évidemment, tout ça, vous aurez probablement vu la conséquence, c'est que ça vous permet de juger un certain nombre de choses, et notamment de juger la qualité de l'objet. Parce que si vous voulez acheter quelque chose, par exemple une paire de menottes, mais que vous les avez pas eues en main, c'est vraiment difficile de juger comme ça, sans les avoir eues en main, leur qualité. Il y a donc tout ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, est-ce qu'elles sont rigides, etc. Mais il y a aussi, en les voyant comme ça de près, qu'on se rend compte vraiment, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est de la qualité, ou est-ce que c'est du machin plus ou moins en plastique, pas trop fiable, ou est-ce que c'est quelque chose qui fait mal aux mains. Par exemple, j'avais acheté il y a très longtemps une paire de menottes en cuir. Je les ai jamais réellement utilisées parce que leur bord était coupé d'une telle façon que, en fait, le bord de la menotte fait un angle droit, si vous voulez. Donc, quand vous avez la menotte sur le poignet, dès que vous bougez un tout petit peu la main, le bord de la menotte, il vous entre dans la chair, en fait. Vous voyez, il est presque aigu. Et ça, c'est vraiment, vraiment nul. Et ça, si vous ne l'aviez pas sous les yeux, vous ne pouviez pas le savoir. Moi, je les avais achetés sur un catalogue il y a très longtemps, et sur un catalogue ça se voyait pas, surtout à l'époque parce que le catalogue pour la commande était en noir et blanc, avec des photos vraiment de mauvaise qualité, donc c'était très difficile de se rendre compte de ce qu'on achetait. Et pour donner un autre exemple, vous avez des choses comme les fouets par exemple, pareil, hein. Si vous avez pas eu quelque chose en main, vous vous retrouvez avec des choses qui vous arrivent par la poste par exemple, et vous avez des surprises des fois, parce que la qualité elle est pas là. J'en profite pour faire un petit aparté sur le problème de la qualité. Méfiez-vous, hein. Franchement, très souvent, à part pour quelques petites choses basiques et encore, vaut mieux éviter de payer vraiment, vraiment le moins cher. Faut pas viser à tout prix le moins cher parce que trop souvent, la qualité est très mauvaise. Et le souci, c'est que pour pas mal d'accessoires, ça peut être mauvais de prendre quelque chose qui est de mauvaise qualité. Je vous ai parlé tout à l'heure là des menottes qui font carrément mal au poignet. Vous avez aussi les petites menottes métalliques que vendent tous les sex shops et qui sont de la cochonnerie, qui vous flinguent les poignets si vous les utilisez un peu trop fort. Vous avez des choses qui peuvent carrément casser à l'usage. Vous avez des choses qui sont avec des matériaux qui sont pas de super bonne qualité et vous avez peut-être pas envie d'utiliser ça sur vous ou votre partenaire. Bref, faut quand même faire vraiment attention à ça. Quelque chose de très cher n'est pas forcément beaucoup mieux, mais par contre, faut vraiment se méfier des choses qui sont très peu chères. Vous aurez noté que j'avais pas parlé du prix comme étant un point négatif parce que je vais en parler tout de suite. Maintenant, je voudrais vous présenter les points positifs et négatifs des sex shops sur Internet. Évidemment, le premier gros point positif évident, c'est que du moment que vous avez une connexion Internet, vous avez aucun mal à en trouver des sex shops sur Internet. Il y en a en pagaille. Vous n'avez pas non plus le problème pour vous déplacer, vous n'avez pas le problème d'éventuelles gênes à aller dans le magasin, il n'y a pas de souci de la peur du regard des autres, ce genre de choses. Évidemment, un des plus gros avantages des sex shops sur internet, c'est leur choix. Ça varie selon les sex shops, hein. Y en a qui sont beaucoup plus évolués que d'autres, il y en a qui proposent beaucoup plus de choses. Entre parenthèses, c'est pas parce qu'ils proposent un nombre colossal d'accessoires que c'est forcément mieux, parce que c'est mieux quand ils sélectionnent un tout petit peu, plutôt que faire comme certaines plateformes qui vous proposent des millions de choses, dont un bon nombre ce sont soit des duplications des uns des autres, soit beaucoup de choses de bas de gamme et de mauvaise qualité. Évidemment, qui dit choix BDSM, et c'est là que se situe une grande différence, parce que je l'ai dit tout à l'heure, dans un sex shop physique, une boutique, il y a quand même en général un rayon de taille assez réduite. Certains, maintenant avec le développement récent de l'intérêt renouvelé pour le BDSM, certains ont rajouté des parties entières, il y en a même un que je connais où il y a un étage entier qui est dédié au BDSM, mais tout ça, même dans les plus gros, ça se compare pas à ce qu'on trouve sur internet, parce que là, ils ont pas de problème d'étagère, ils ont pas trop de soucis à ce niveau-là, donc ils peuvent se permettre de proposer beaucoup plus de choses. Surtout que souvent, ils ne les stockent pas dans leur propre magasin. De ce point de vue, pour l'aspect BDSM, franchement, là, ça fait une très grosse différence. C'est vraiment un point positif. Cela dit, j'en profite pour vous glisser une petite astuce, hein, parce que je vais en glisser un certain nombre dans cet épisode. Faut pas vous restreindre à un seul sex shop, même si vous en trouvez un qui vous semble bien. Parce que pour le choix, justement, on a souvent des surprises. Même si en apparence, il y a beaucoup de choix, des centaines, parfois des milliers de choses hein, qui sont proposées. Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, souvent, vous avez des choses qui ne seront pas dans un magasin, qui seront dans un autre. Et si vous cherchez par exemple des choses un tout petit peu plus spécialisées notamment, et toujours dans BDSM hein, bien entendu, si vous cherchez certaines marques, vous pouvez carrément trouver des boutiques où une grande marque assez connue n'est pas vendue du tout. Et ça, c'est un problème. Et même s'ils vendent un certain nombre de produits de la gamme machin ou de la marque ceci ou cela, vous pouvez parfaitement avoir un échantillon de ce qui est vendu qui est très restreint, et parfois, même au sein du même gamme, vous êtes obligé d'aller regarder un produit dans le sex shop A et un autre produit de la même gamme dans le sex shop B, parce que pour des raisons assez bizarres, franchement, chacun d'entre eux ne présente qu'une partie de la gamme du fabricant qui vous intéresse. C'est particulièrement gênant pour un certain nombre de matériels, notamment les matériels de type électrostimulation ou e-steam, dont je parle assez souvent parce que c'est une de mes pratiques préférées, et en explorant et en cherchant différents modèle, je me suis vraiment aperçu que c'était difficile de trouver ce qu'on veut. Et en plus après, si vous cherchez des choses un tout petit peu plus spécialisées, le Esteem, c'est un bon exemple, hein, très vite vous apercevez que, eh bien, en fait, ils vendent que quelques marques très connues, et ça s'arrête très vite. Donc pour des choses un tout petit peu spécialisées, et un tout petit peu, hein, je parle pas de choses super rares, ça devient vite une chasse à la boutique qui le vend. Et malheureusement, souvent, hein, les fabricants, ils ont pas vraiment une boutique où elle est un peu inaccessible, elle est par exemple que américaine, ou bien que ceci, cela. C'est quand même plus pratique de passer par un sex shop, c'est ça que je veux dire. Mais très vite, je me suis retrouvé comme ça à avoir des difficultés, en fait. Cela dit, pour un grand nombre de matériel, c'est pas un problème trop majeur. On se débrouille en fouillant un petit peu. Maintenant, parlons du prix. Un des grands avantages, a priori en tout cas, des sex shops internet par rapport aux sex shops physiques, les boutiques, c'est que le prix est, en général, nettement plus bas quand on va sur des sex shops sur le web, sur internet. Ce sera presque toujours le cas, donc évidemment, ça donne l'idée, naïve, que c'est une bien meilleure solution. Alors, c'est une meilleure solution, mais il y a pas mal de limitations et de soucis. Je vais pas insister lourdement sur le problème des arnaques, le problème des erreurs aussi, j'en avais déjà parlé dans mon épisode numéro 5, j'en avais parlé aussi dans mes articles, parfois les photos sont fausses, ça peut être des erreurs de bonne foi, parfois ce sont des arnaques. Hein. Il est pas toujours évident d'acheter ce que vous voulez vraiment acheter, parce que parfois vous recevez quelque chose qui n'est pas ce que vous vouliez. Ça peut être donc une erreur de bonne foi, mais parfois ça peut être une arnaque. Alors je vais pas insister trop lourdement sur ces problèmes-là, qui évidemment ne se posent pas dans un sex shop physique puisque vous avez l'objet en main quand vous allez payer. C'était un gros avantage à ce niveau-là. Un autre problème, c'est que pour beaucoup de choses, il faut vraiment être sûr de soi. C'est-à-dire, si vous connaissez pas encore vraiment les produits, les accessoires, par exemple les boîtiers e-steam dont je viens de parler, acheter comme ça sur internet sans s'y connaître, ça peut être carrément risqué, parce que, à part si vraiment vous arrivez à vous renseigner, ce qui est pas toujours évident, vous allez risquer d'avoir une surprise, parce que vous savez pas quel est exactement le poids, la taille, la puissance de l'objet, vous pouvez pas vérifier sur la boîte par exemple ce qui est marqué derrière, donc il y a quand même un côté un petit peu aléatoire, qui est assez désagréable, mais qui est forcément, hein, c'est bien connu, c'est une des limites hein, de l'achat sur Internet. Quand on achète des vêtements, c'est le cas le plus flagrant, c'est qu'on peut pas savoir exactement quelle est la taille pour l'ajustement à la ceinture par exemple, mais aussi pour la longueur. Pour les accessoires BDSM, c'est exactement le même problème, bien entendu. Donc on peut économiser, mais parfois on peut avoir une déception qui fait que l'économie, finalement, elle va être très relative, voire une perte sèche dans le pire cas. En résumé, il faut faire attention à ce qu'on fait et se renseigner autant que c'est possible. Le souci étant que c'est pas toujours aisé de se renseigner, et même en se renseignant, c'est pas toujours évident de comprendre ce que vend vraiment le magasin. Et là, je vais vous parler d'un autre problème que probablement vous connaissez pas encore, à moins d'avoir déjà fait des achats dans des sex shops, sur internet bien sûr. C'est que pour beaucoup d'objets, malheureusement, il n'y a pas vraiment de gamme ou de fabricant qui soit clairement indiqué. Alors pour un certain nombre d'accessoires de sex shop, d'accessoires sexuels, notamment un certain nombre de gadgets du type vibrateur, ce genre de choses, surtout ceux qui sont un peu coûteux, il y a des marques qui sont en général connues, qui ont des gammes, etc. Et ça joue beaucoup hein, pour le côté marketing, etc. Vous avez des pubs sur internet un peu partout, même pour ces marques. Du moins des pubs dans les endroits où il y a des références à des sujets adultes. J'en ai vu passer un certain nombre de fois, et c'est vrai que là, quand vous avez la marque machin, que vous savez que c'est une bonne marque, c'est vraiment bien parce que là, si vous allez sur un sex shop, vous n'avez pas besoin de vous embêter. Vous connaissez la marque, vous savez quel est le modèle que vous voulez, donc vous pouvez acheter assez aisément. Le souci, c'est que ça, c'est dans les meilleurs cas. Il y a beaucoup, mais alors beaucoup de choses, et surtout de l'entrée de gamme, où il n'y a pas vraiment un nom de marque, ou alors c'est quelque chose d'un peu générique. Et du coup, ça rend beaucoup plus difficile cet aspect, pourtant très intéressant de connaître une marque et un modèle. Si je reprends les Esteem dont je parlais donc tout à l'heure, vous avez un certain nombre de fabricants, vous avez un certain nombre de gammes et de modèles par fabricant, et donc en général, vous pouvez retrouver ce que vous cherchez, en faisant attention, parce que des fois il y a donc, comme je l'avais indiqué, hein, des erreurs, vous pouvez acheter le modèle A en croyant acheter le modèle B, ce genre de problème. Mais si vous prenez par exemple des menottes, la plupart du temps vous aurez pas vraiment une marque. Peut-être que vous aurez quelque chose de générique, peut-être que vous aurez même comme pseudo-marque le nom du sex shop, mais là ça va être plutôt une marque blanche, donc vous savez pas qui est vraiment derrière. Si vous regardez une cravache, vous avez à peu près zéro chance qu'on vous dise d'où ça vient. Si vous regardez des pinces japonaises par exemple pour les tétons, hein, vous avez quasiment aucune chance de trouver le fabricant, etc. Si je prends l'exemple des pinces japonaises, c'est un bon exemple. À une époque, j'en achetais dans une boutique à Paris, et malheureusement, ils ont arrêté de les vendre parce que le producteur, en fait, le fabricant, il n'en vendait plus. J'ai fouillé un peu partout pour trouver des substituts du même type, mais faits par d'autres sociétés, par d'autres fabricants, et jusqu'à présent, j'ai pas réussi à trouver un équivalent. Les autres modèles que j'ai trouvés, alors que si on s'y connaît pas, à l'œil, ça a l'air identique, les autres modèles, ils sont pas aussi bien. Le métal est trop léger, il est pas assez costaud, les pinces de ce fabricant-là était particulièrement bonne. Maintenant, j'ai aucune idée de qui c'était ce fabricant, parce que c'était vendu dans des petits sachets noirs, comme ça, il n'y avait pas de marque, il n'y avait même pas d'étui, rien. Et pour les accessoires BDSM, la plupart du temps, ça va être ça. Même pour des choses un peu chères, vous pouvez avoir ce problème, hein. Vous pouvez acheter un matériel sans vraiment pouvoir avoir le nom du fabricant, ou si vous avez le nom du fabricant, c'est quelque chose de totalement obscur, et vous trouverez jamais une boutique sur internet de ce fabricant, parce qu'ils vendent que à des sex shops, donc ils n'ont pas contact direct avec les clients. Et ça, c'est assez ennuyeux en fait. En résumé, vous vous en doutez probablement maintenant, ce que je veux dire c'est que faut faire vraiment attention quand vous achetez des choses un petit peu chères et que vous n'êtes pas déjà sûr de ce que vous voulez. Si vous avez le nom de la marque et le nom du matériel, ça va. Si vous savez déjà exactement que tel produit, vous avez soit eu des amis qui vous l'ont recommandé, soit vous avez vu dans des forums, dans des articles, quelque part, peut-être même que vous avez essayé lors d'une soirée. Si là, vous avez le nom du modèle, ça va. Mais si vous y allez un petit peu comme ça, en tâtonnant, faut vraiment se méfier. Si vous voulez acheter quelque chose d'un tout petit peu cher, vous risquez vraiment de pas avoir ce que vous croyez acheter au final. Quand ça vous arrive dans les mains, vous dites « Ah, oh, c'est pas terrible !» Et ça, malheureusement, bon, ça arrive à tout le monde. Hein. Ça m'est arrivé, hein, je l'avais expliqué tout à l'heure. Quand j'avais fait cet achat, il y a très longtemps, d'un certain nombre de choses, il y avait plusieurs choses que j'avais achetées qui étaient d'une qualité médiocre, dirais-je, pour ne pas dire plus. Maintenant, ça, c'était il y a plus de 25 ans, alors il y avait peut-être des excuses à l'époque, mais de nos jours, on a des bonnes photos, etc., ça aide, mais il faut quand même vraiment garder une certaine prudence. Hein. Et si vous connaissez pas déjà un petit peu, je veux pas dire forcément que vous deviez connaître exactement le produit que vous voulez acheter, mais au moins connaître par exemple pour les menottes. Si vous en avez jamais porté, jamais essayé, jamais eu en main, si vous achetez direct un modèle un peu cher, il y a une assez forte chance que ce soit pas ce que vous attendiez. Donc tant qu'on s'y connaît pas au moins dans le domaine des accessoires qu'on veut acheter, par exemple les menottes, les fouets, les pinces japonaises dont je viens de parler, faut quand même garder une certaine prudence. Il y a un risque d'avoir une petite déception et parfois une grosse déception. Donc l'argument du prix est un vrai argument, mais il n'est pas totalement magique. Je voulais insister sur ça pour bien dire que c'est pas le seul facteur à prendre en compte. Faut vraiment faire attention parce que acheter quelque chose de moins cher mais qu'au final on n'utilise pas, c'est une grosse perte. C'est sur ça que je voulais vraiment insister, hein. Et vraiment, je me répète, j'avais dit tout à l'heure, surtout si vous achetez sur internet, aussi si vous allez dans des boutiques, mais c'est encore plus critique sur internet, faites jouer la concurrence et allez regarder différentes boutiques. Prenez le temps de vous renseigner, de voir même pour des matériels qui semblent identiques ou qui sont identiques, si vous avez un numéro précis, hein, par exemple pour les boîtiers Steam dont je parlais tout à l'heure, si vous savez exactement que vous voudriez acheter celui-là, tel modèle, utilisez tous ces sites qui sont faciles d'accès pour comparer les prix, pour comparer aussi éventuellement le service qui va avec, hein, par exemple s'ils font des livraisons en relais colis, parce que tous ne le font pas. Vous avez aussi le problème des moyens de paiement, parfois on a des surprises, hein, il y en a, ils acceptent pas grand-chose. En résumé, prenez un petit peu de temps, si vous connaissez pas, prenez vraiment du temps, et notez bien les meilleures boutiques que vous trouvez pour pouvoir y revenir ensuite. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir trouvé tel accessoire et de s'être dit, ce sera peut-être bien de l'acheter un jour. Et 6 mois plus tard, vous dites, ah bah maintenant que je connais un petit peu mieux, je voudrais bien acheter le matériel en question. Et vous vous rappelez plus sur lequel des nombreux sex shops que vous avez visités, vous l'aviez trouvé. Et alors là, c'est très énervant. Je voudrais soulever un dernier point sur la comparaison entre les sex shops physiques et les sex shops sur internet. On vient de voir donc que l'un des facteurs c'est le prix, mais évidemment l'avantage d'acheter en boutique c'est que quand vous êtes passé à la caisse, vous savez ce que vous avez acheté, vous n'avez pas ce petit risque de la surprise au moment où arrive la commande que vous avez faite par internet. Mais un point intéressant que je viens d'évoquer tout à l'heure pour les sex shops sur internet, c'est qu'il ne faut pas hésiter aussi à comparer entre les sex shops physiques que vous auriez pu visiter et les sex shops sur internet. Parce que parfois on a des surprises, on peut s'apercevoir pour un certain nombre de choses que finalement c'est pas tellement plus cher en réel dans une vraie boutique, et du coup dans certains cas ça peut être plus simple d'acheter carrément dans la boutique. Ça simplifie les choses. Mais sinon, ce que je recommande vraiment, c'est de vous renseigner au moins sur les sex shops sur internet avant d'aller dans un sex shop physique. La raison, c'est que ça vous permettra d'avoir en tête les prix typiques pour tel et tel accessoire. Je vais vous prendre un exemple. Je reviens toujours à mes boîtiers e-steam, l'électrostimulation. J'avais déjà raconté dans des articles et dans mon épisode numéro 5. Ce sujet-là, je connais bien, je sais quels sont les prix, hein. Et l'année dernière, par exemple, j'avais refait un petit balayage des tarifs actuels pour un certain boîtier parce que je voulais en acheter un supplémentaire, et donc j'avais passé beaucoup de temps pour trouver la boutique qui le propose à un prix raisonnable. Je m'étais entre parenthèses aperçu qu'il fallait acheter dans deux boutiques puisque le boîtier était beaucoup moins cher dans une boutique et les pinces étaient beaucoup moins chères dans une autre boutique. Comme quoi la concurrence, vous voyez, faut vraiment la faire marcher, faut vraiment faire attention. Et ensuite, j'avais été revisiter différents sex shops à Paris. Et il y en a un où j'étais pas allé depuis plusieurs années. Donc, j'y suis allé, j'ai été visiter leur étage dédié au BDSM. Et là, franchement, j'ai failli m'évanouir en voyant les prix, hein. Mon portefeuille, il s'est barré en courant. C'était super cher. Alors, ce sex shop-là est connu pour être extrêmement cher. Mais leur étage BDSM, franchement, il a de quoi faire peur. Et j'avais regardé, parce qu'ils avaient des boîtiers e-steam dans une petite vitrine. Par curiosité, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. À combien eux ils le font, et là c'est tout juste si je me suis pas évanoui en voyant le prix. C'était 2,5 fois le prix que je venais de trouver sur internet. Vous imaginez, c'est fou quoi, c'était à la limite de l'arnaque. Et c'était exactement la même chose, hein, je précise pour être bien clair. Là ce sont des choses que je connais vraiment parfaitement, donc au premier coup d'œil je reconnais le modèle, hein, ça fait plus de 20 ans que je m'en sers, donc le modèle je sais exactement ce que c'est. Quand j'ai vu le prix j'ai cru que c'était une plaisanterie, j'ai revérifié, non c'était bien ça. Et il y avait d'autres boîtiers plus sophistiqués, j'ose même pas vous dire quelles étaient les gammes de prix. Là, c'est des centaines d'euros, on dépassait les 400 euros, enfin, c'était n'importe quoi, franchement. Et vous voyez, si vous aviez été, par exemple, tenté d'acheter un boîtier e-steam sans avoir jamais fait de recherche, vous êtes renseigné sur les prix en général, ou au moins les intervalles de prix les plus fréquents, dans le cas du boîtier dont je suis en train de parler, ça va de, grosso modo, 100 euros à 180 euros, hein, c'est les prix habituels. Si vous savez pas à l'avance à quelle gamme de prix vous allez être confronté, c'est difficile de distinguer quand c'est une bonne affaire, quand c'est le prix normal, et quand c'est à la limite de la folie furieuse, comme là c'était le cas. Du coup, même si vous préférez aller dans un sex shop physique pour acheter ceci ou cela, c'est quand même bien avant d'avoir fait un petit balayage pour se dire, ah d'accord, tel matériel, même des choses du genre les vibrateurs, hein, tel matériel c'est plutôt dans les 40-50 ou plutôt dans les 60-70, ce genre de choses. Franchement, ça évite de se faire un peu avoir dans le sex shop parce que tel matériel peut être très cher alors que d'autres ne le sont pas. Je le reprécise parce que c'est important, les prix dans les boutiques sont en général plus élevés, presque toujours plus élevés. Mais ils sont pas forcément beaucoup plus élevés, ça dépend des matériels, et parfois, comme je viens de l'expliquer là avec le Esteem et donc le rayon BDSM de ce sex shop particulier, on peut trouver des choses qui sont beaucoup plus chères, beaucoup trop chères. Ce qui veut pas dire qu'il n'y en ait pas d'autres qui soient à des prix nettement plus raisonnables. D'où l'importance hein, d'avoir une petite idée quand même des tarifs généralement pratiqués, c'est vraiment important. Et au pire, si vous trouvez quelque chose qui vous inspire dans un sex shop physique, mais que le prix vous fait faire la grimace, la solution évidemment, c'est d'aller regarder sur internet et voir si vous trouvez la même chose. Cela dit, je répète mon avertissement précédent, pour la plupart des choses, vous aurez pas une marque précise, vous aurez pas un numéro de modèle précis, faut vraiment faire attention à pas se faire arnaquer. Hein. Méfiez-vous notamment des plateformes du genre AliExpress qui proposent du bon et du très mauvais. Quand c'est pas cher, c'est toujours de la mauvaise qualité. Et méfiez-vous même sur des plateformes européennes ou américaines, de vente en ligne, il y a beaucoup de boutiques comme ça qui sont en fait des boutiques bas de gamme, qui vous vendront des choses pas chères, mais souvent la qualité y est pas. Donc faut vraiment faire attention. Hein. Si vous cherchez quelque chose de simple, même comme un plug anal en métal, les prix ça va de 1€, surtout n'achetez jamais un truc comme ça à 1€, ça va être de la cochonnerie, jusqu'à des dizaines d'euros, ça peut dépasser allègrement les 100€. Ça dépend des modèles, des fabricants, etc. C'est pas évident de savoir lesquels prendre, et par exemple vous pouvez avoir des surprises avec des modèles qui, au bout de quelques utilisations déjà, commencent par exemple à rouiller ou des choses comme ça, vous imaginez ? Bref, faut faire attention. Vous vous en doutiez probablement déjà, mais je préfère le repréciser, bien mettre les points sur les i. Le monde du sexe, c'est vraiment un des milieux, un des domaines où il y a le plus d'arnaques, d'autant plus que les gens sont un peu embarrassés ensuite d'aller se plaindre. Donc, faut vraiment garder une certaine prudence et une prudence certaine. Troisième partie, dans quel cas est-il justifié d'aller visiter un sex shop physique, une vraie boutique ? Vous aurez probablement remarqué que j'ai déjà pour une partie répondu à cette question dans les parties précédentes. Mais je vais maintenant faire un résumé de la situation telle que je l'aperçois. À mon avis, pour les personnes qui débutent le BDSM, qui connaissent pas vraiment, ou pas du tout, qui veulent se lancer par exemple, je pense que c'est dans une certaine mesure justifié pour les raisons que j'ai présentées tout à l'heure, c'est-à-dire se confronter à des choses qu'on connaît pas encore. Parce que, je l'ai dit, hein, regarder sur internet c'est très bien, c'est super, c'est très utile, et faut pas négliger cet aspect des choses, cet angle d'attaque quand on connaît pas. Ça permet de voir ce qui existe, ça permet de voir les types de prix, ça permet aussi de donner éventuellement des idées, hein, parce qu'il y a des choses auxquelles on pense pas quand on débute, c'est normal. Déjà quand on débute pas, ça peut donner des idées d'aller voir des sex shops, alors quand on se lance, c'est encore plus intéressant. Mais vraiment, si on connaît pas du tout quelque chose, c'est mieux d'y être confronté physiquement. Je vais reprendre l'exemple des vêtements pour quelque chose d'assez classique et pas relié au BDSM. Si vous avez jamais acheté par exemple de vêtements en cuir ou en vinyle, même hors d'un contexte BDSM, franchement c'est plutôt risqué de vouloir acheter directement sur internet. Vous avez une forte chance de devoir renvoyer par exemple le pantalon, la veste, ce genre de choses, parce que ça correspond pas exactement à ce que vous pensiez. Évidemment par contre, si vous avez depuis longtemps acheté tout un tas de vêtements en cuir, en vinyle ou autre, que vous savez à quoi vous attendre, quels seront les touchés, quelles sont les choses auxquelles faut faire attention, comme par exemple, il y a certains vêtements, faut se méfier parce qu'il y a une tendance à avoir des tailles qui sont beaucoup plus petites que pour d'autres. Ça dépend aussi des marques, ce genre de problème. Si vous connaissez rien à tout ça, vous allez vers une déception presque à coup sûr. Du coup, c'est intéressant d'aller un minimum faire connaissance avec l'objet lui-même, le tenir en main, le toucher, l'essayer éventuellement, pour les vêtements en tout cas, ce genre de problème. C'est pour ça qu'à mon avis, vraiment, quand on veut se lancer, c'est très utile, j'irais même jusqu'à dire c'est très important, de se renseigner d'abord, ok, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, de regarder sur internet, mais ensuite de faire la démarche d'aller, quand c'est possible évidemment, dans un vrai sex shop pour pouvoir un peu toucher tout ça de près. Pour moi, vraiment, ça permet d'avoir cette première approche, ce premier toucher, entre guillemets, cette première expérience physique de la chose qui minimise, à mon avis, assez fortement le risque ensuite d'avoir trop de déceptions. Commander par internet, il y a toujours un risque de déception, hein, même pour quelqu'un qui connaît très bien, à part si vous commandez un objet hyper précis, comme j'avais dit tout à l'heure, dont vous avez la référence exacte, à part ces cas-là, le risque d'avoir une déception et de devoir envoyer existe pour tout le monde, bien sûr, mais franchement, c'est beaucoup plus important quand on connaît pas. C'est pour ça que pour moi, vraiment, c'est très sympa et très utile de se rendre dans une boutique, au moins une ou plusieurs fois si on peut, à condition bien sûr de pouvoir y accéder, ce qui est un gros problème. Mais si vous en avez l'opportunité, franchement, je le recommande. Vous avez a priori pas grand-chose à y perdre, hein. Un petit peu de temps, mais comparé aux soucis de peut-être ne pas avoir acheté la bonne chose, de faire des retours, etc. Je pense que ça vaut largement le minuscule investissement de temps et d'effort pour y aller éventuellement. Et franchement, si vous habitez à un endroit qui est pas trop loin de sex shop, par exemple à Paris, enfin dans des grandes villes, typiquement, franchement, ça vaut pas la peine de se poser de questions, faut y aller au moins une fois. Le mieux étant, évidemment, mais alors ça c'est difficile, de trouver un sex shop ou des sex shops qui aient un rayon BDSM un peu important. Malheureusement, c'est pas très fréquent, hein. Sur Paris, j'en connais trois. Il y a la boutique Démonia qui est spécialisée, il y a un sex shop parmi les sex shops dont j'ai parlé tout à l'heure, Boulevard Clichy, qui a un étage complet dédié au BDSM. Et puis j'ai trouvé aussi dans d'autres sex shops, dans d'autres quartiers de Paris, où il y avait aussi une petite pièce dédiée au BDSM en sous-sol dans le cas auquel je pense. Il y en a probablement d'autres parce qu'évidemment je les ai pas tous visités, hein. Mais c'est quand même mieux si vous pouvez comme ça trouver quelque chose qui a une surface dédiée un petit peu importante. Cela dit, dans tous, il y aura un minimum de choses orientées BDSM. Le souci étant, je l'avais évoqué tout à l'heure, que la plupart du temps, quand même, vous trouverez des choses très basiques, le tout venant, entre guillemets. Mais même ça, c'est déjà bien, ça permet déjà de faire un premier pas, hein. Il n'y a pas besoin non plus d'acheter des choses extrêmement chères, extrêmement sophistiquées, etc. En tout cas, pas pour les premiers essais, où le mieux, c'est quand même d'acheter quelque chose de pas trop cher, histoire de faire un premier essai, voir si ça vous plaît, et ensuite seulement d'aller éventuellement acheter quelque chose d'un tout petit peu plus coûteux. Pas forcément très coûteux, hein, mais un tout petit peu mieux. Un exemple très simple, ça pourrait être par exemple un accessoire quelconque pour les fessées, du genre paddle, ce genre de choses. C'est pas la peine d'investir dans quelque chose de super coûteux dès le départ si vous savez pas déjà que ça va vous plaire ou plaire à votre partenaire. Franchement, donc pour moi ça vaut vraiment la peine, et je pense que c'est vraiment utile et que vous le regretterez pas. Donc je vous encourage vraiment à essayer ça, éventuellement d'ailleurs avec votre partenaire si vous avez quelqu'un en ce moment. Je viens de parler du cas donc des personnes qui débutent, qui connaissent pas, ce qui est normal. Et je voudrais maintenant parler d'un deuxième cas, c'est le cas où vous faites déjà au moins un peu de BDSM, mais vous connaissez pas forcément un produit ou une gamme d'accessoires. C'est normal, hein, personne ne connaît tout. Par exemple, moi je connais un certain nombre d'accessoires, il y a des gammes d'accessoires que je connais bien, mais il y en a plein que je connais pas, parce que je m'en suis jamais servi, que j'ai jamais eu l'occasion ou l'intérêt pour ce genre de choses. Et donc, même il y a pas si longtemps, j'ai découvert telle ou telle chose, hein. Et quand on découvre de nouveaux types d'accessoires, de nouvelles pratique, il faut évidemment se renseigner aussi, hein. C'est comme si on était débutant. Le seul avantage, c'est que au moins on a une vision globale. Dans mon cas, par exemple, j'ai une vision assez globale de ce que j'aime, donc je peux faire des comparaisons. Si par exemple je veux acheter un gadget que j'ai jamais acheté avant, mais qui a quand même des points en commun avec des gadgets que j'utilise habituellement, prenons un paddle. Imaginons que je n'aurais jamais acheté une cravache, ce qui n'est pas le cas, mais imaginons que maintenant je me dis je veux en acheter une et que j'ai pas du tout de connaissances sur qu'est-ce qui est intéressant. Quelles sont les tailles qui me correspondraient, ou quels sont les types de cravages qui seraient adaptés à mes pratiques préférées. Au moins, je peux quand même me référer, pour une certaine mesure, à des points de comparaison de choses qui ressemblent un petit peu et que j'ai fait dans le passé. C'est pas suffisant, mais j'ai au moins une idée globale, ça aide. Après, évidemment, si on connaît vraiment pas du tout le secteur, par exemple, imaginons vous vous dites, j'ai envie de tester les Esteem, dont j'ai parlé plusieurs fois tout à l'heure. Là, si on connaît pas, c'est vraiment une exploration majeure, il faut faire attention, parce que ce sont des produits qui sont chers. Donc là vraiment, hein, si on connaît pas du tout les types d'accessoires, si c'est vraiment une nouvelle pratique, à mon avis, là aussi, ça vaut le coup, si c'est possible évidemment, d'aller essayer d'en voir dans des sex shops. L'ennui évidemment, c'est que pour un certain nombre de matériels, ils sont pas trop dans les sex shops, hein, je viens de l'expliquer. La plupart, ils ont quand même des choses assez d'entrée de gamme, ou du moins classiques. Donc si vous cherchez des choses du genre les Violet Wand, les boîtiers Esteem, ce genre de choses, qui sont des choses qui utilisent l'électricité, vous allez avoir un choix qui va être probablement très restreint, et parfois vous risquez de trouver en fait des choses tellement bas de gamme que c'est le genre de choses à éviter à tout prix. Donc là, ça dépend du sex shop où vous pouvez aller. Certains sont assez bien chalandais et vous trouverez pas mal de choses, d'autres vous trouverez pas grand chose évidemment, et ça c'est un peu dur de le savoir à l'avance. Ceux que je connais à Paris, ils ont pas mal de choses, même ceux qui sont pas spécialisés BDSM, il y en a qui ont pas mal de choses, mais il y en a qui sont très bien, auxquels je vais régulièrement, ils ont presque rien en BDSM. J'y vais pour d'autres produits que j'utilise dans un contexte BDSM, mais qui ne sont pas des accessoires BDSM. Donc là, vous pouvez pas savoir à l'avance. Faut aller dans le sex shop pour voir, et ce n'est qu'une fois sur place, hein, qu'on peut vraiment se rendre compte, est-ce que c'est une boutique qui est bien, est-ce qu'elle est adaptée pour une recherche BDSM ou pas. Dur de savoir à l'avance, hein. J'en profite pour vous donner une petite astuce. Ne négligez pas les éventuels sex shops gays, c'est-à-dire orientés, qui font leur pub en disant « c'est un sex shop gay », parce que vous pouvez y trouver aussi pas mal de choses orientées BDSM. J'avais acheté un certain nombre de choses dans un sex shop qui malheureusement depuis a fermé, qui était situé à Paris, et ils avaient un certain nombre d'équipements de type Steam par exemple, ils avaient des fuck machines, ils avaient pas mal de choses en fait, dont des choses orientées BDSM. Faut pas négliger cette piste si par hasard vous en avez un dans le coin, mais sinon de façon générale, la seule solution, hein, c'est d'aller pour voir comment ça se passe dans le magasin. Un dernier point quand même, je pense pas qu'il faudra trop compter pouvoir faire des essais, comme des menottes par exemple, parce que en général les menottes sont juste posées sur des présentoirs, donc on peut les toucher, les ouvrir, les mettre sur son poignet, ce genre de choses. Il y a pas mal de choses qui sont sous plastique, alors évidemment on peut pas les tester, hein, bien sûr. Il y en a, on peut pas pour des raisons d'hygiène, mais ça c'est évident. Et il y en a, c'est pas très aisé à tester, je pense pas que vous pourrez aisément obtenir une démo. Par exemple, je reviens toujours, vous m'excusez, hein, sur les Steam. Ça c'est des choses, si vous connaissez pas, faut absolument tester avant en acheter, parce qu'on risque une grosse déception avec ce genre de choses, c'est très spécial, on aime ou on n'aime pas, voilà. Le problème, c'est que c'est pas quelque chose de facile à tester, c'est vendu dans des boîtes, et dans la plupart des magasins, ils seront probablement très hésitants à vous faire essayer. Ça demande du temps, faut déballer quelque chose, il y a les problèmes d'hygiène. C'est pas totalement impossible avec certains gadgets, et ça dépend des vendeurs et des vendeuses qui sont présents, mais franchement, faut pas trop y croire. Demandez éventuellement, faut pas hésiter à demander, mais je pense qu'il y a pas trop de chances que ce soit possible, malheureusement. C'est une limite, ça, des achats pour tous les accessoires BDSM, de type, par exemple, les Steam, c'est un bon exemple. Toutes les choses qu'on connaît pas, mais qui sont difficiles à tester, malheureusement, c'est une limite, hein, c'est vraiment un gros problème. Les seuls moyens, c'est soit de connaître quelqu'un qui vous le fait tester, ce qui est pas évident, à part peut-être si vous allez dans une soirée et que vous croisez des gens sympas, qui ont en main le matériel qui vous intéresse. Et sinon, l'autre solution, alors c'est pas super satisfaisant, c'est d'acheter quelque chose d'entrée de gamme, et de vérifier que ça vous plaît. L'ennui, c'est que parfois, les choses d'entrée de gamme, elles sont décevantes, elles fournissent pas les mêmes sensations qu'un vrai accessoire. Donc là, c'est un petit peu délicat, mais ce sera probablement la seule solution pour la plupart des accessoires. C'est pas super satisfaisant, mais je vois pas vraiment d'autres solutions qui soient particulièrement pratiques, à part vraiment, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous connaissez des gens qui peuvent vous prêter ou vous faire une démonstration. En conclusion, vous voyez, pour moi, le sex shop physique a encore une vraie raison d'être. Et puis franchement, entre nous, hein, ce serait vraiment dommage que tout se ferme et soit complètement mangé, dévoré par le commerce sur Internet. Ce serait vraiment dommage. Et franchement, je pense que c'est intéressant de pouvoir aller dans des boutiques physiques, de pouvoir vraiment toucher les objets, les voir vraiment. Évidemment, le problème du prix, c'est un gros problème, mais il n'y a pas de solution très simple à ça. Ça fait reculer la plupart des gens. Et franchement, évidemment, quand le prix, il est 250% du prix tel qu'on le trouve sur Internet, j'en avais parlé tout à l'heure, évidemment, là, il n'y a pas photo, hein. C'est totalement déraisonnable de vouloir acheter dans ce cas-là, dans ce genre de cas, de vouloir acheter dans une boutique, même si on veut les aider à rester en vie, là, c'est totalement déraisonnable. Mais, je le redis, on peut quand même trouver des choses qui sont pas tellement plus chères ou pas inabordables, et donc ça peut être une occasion, au moins pour acheter un premier gadget, quitte ensuite, quand on s'y connaît, hein, si on veut acheter des choses plus sophistiquées, plus coûteuses, là, l'achat sur Internet peut s'imposer, ne serait-ce que parce que ce que vous cherchez ne se trouve pas dans la boutique physique. Mais quand même, hein, globalement, vous voyez, je trouve que les boutiques physiques ont leur place, qu'aller les visiter est encore de nos jours justifié, dans un très grand nombre de cas, et surtout quand vous voulez comme ça un petit peu explorer. Donc si vous connaissez pas encore trop ce genre de choses, pour moi, ça vaut vraiment, vraiment le déplacement. Ne serait-ce qu'une ou deux fois, ou de temps en temps si c'est facilement accessible, évidemment. Si vous ne connaissiez pas du tout les sex shops, et notamment les sex shops physiques, les vraies boutiques, j'espère que mon petit exposé vous aura au moins donné une certaine curiosité, que ça vous incitera peut-être à tenter au moins une fois une visite pour voir de quoi il retourne. De façon générale, évidemment, si vous avez jamais vraiment utilisé des sex shops sur Internet, là, il n'y a pas d'hésitation à avoir, hein. Allez regarder, franchement, ça coûte rien, et ça peut être très intéressant, ça peut vous donner des idées, par exemple. Mais vraiment, hein, si vous débutez, ou si vous voulez débuter, que vous avez des velléités de vous lancer dans BDSM, et que vous vous dites « il me faudrait bien un ou deux petits accessoires », même si c'est pas toujours indispensable, je pense que ça peut aider vraiment d'aller visiter un vrai sex shop, une boutique réelle. Après, hein, je me répète, avoir déjà fait un petit état des lieux en regardant sur Internet, ça aide vraiment, hein, croyez-moi. Malheureusement, les sex shops physiques, il y en a quand même pas tant que ça, mais ça existe encore, il y en a encore beaucoup. Donc si vraiment vous avez l'opportunité d'aller en voir un, à mon avis, ça vaut vraiment la peine. Dans un contexte BDSM notamment, mais aussi dans un contexte non BDSM, pourquoi pas, autant faire d'une pierre deux coups si vous n'avez jamais été visiter ce genre de choses. Franchement, ça vaut la peine, à mon avis. Maintenant, c'est à vous de voir en fonction de votre situation, de votre contexte et de vos intérêts, mais personnellement, je trouve que ça vaut vraiment la peine. Si vous y allez, bonne visite et n'oubliez pas de bien noter ce que vous remarquerez dans le rayon ou les rayons orientés BDSM. Et n'oubliez pas quand même d'aller aussi regarder les autres rayons. Il y a des choses intéressantes qu'on peut utiliser dans le BDSM, même si elles ne sont pas en elles-mêmes des accessoires BDSM, des choses dédiées au BDSM. J'espère que cet épisode vous aura intéressé, qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, des idées d'articles pour mon site ou d'épisodes pour le podcast, n'hésitez pas à me joindre. Sur mon site univers-bdsm.info, vous trouverez dans la page contact un formulaire qui vous permet de m'envoyer un message en restant anonyme si vous le désirez. Sur cette même page, vous trouverez aussi mon adresse email si vous voulez m'écrire directement. Et vous pouvez aussi trouver mon adresse email sur le site du podcast à l'adresse podcast.univers-bdsm.info. Si vous avez des choses à dire, surtout n'hésitez pas, je suis toujours très intéressé par tous les retours qu'on peut me faire. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes sur le podcast BDSM de Larry.